C'était The Barking Dogs, Five Miles Ranch. Vous avez reconnu le nouvel indicatif de l'entonnoir, les éléphants, par le Berrurier Noir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des droits de l'homme avec le CRPA, le cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, à propos d'une conférence publique qui a été organisée le 4 février dernier, donc le 4 février, à propos de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Alors, nous allons écouter un enregistrement qu'on a fait hier, dont le début a été un peu mangé sur deux minutes, pour des raisons techniques. Et donc, nous invitons André Bitton, du CRPA. CRPA dont l'appel qui fait cet appel suivant. Pour celles et ceux qui ont connu ou connaissent actuellement de la psychiatrie lourde et de ses ravages, l'heure est tout aux médicaments, à l'enfermement et au contrôle social renforcé. Le projet de réforme gouvernementale des « entre guillemets soins psychiatriques sans consentement » en fait foi. Nous lançons cet appel solennel. N'attendez pas qu'il soit trop tard dans vos vies et dans la déshumanisation qui vous a été programmée dans les institutions comme en dehors. N'attendez pas le feu vert de votre psychiatre, de vos soignants, de votre famille, de l'État, de ceux pour qui vous étiez en trop et qui vous ont adressé aux institutions psychiatriques. Entrez en résistance, rejoignez-nous, nouez vos solidarités, organisez-vous. Vous avez été témoin ou vous avez connu des violations graves des droits fondamentaux en institutions psychiatriques. Osez parler, osez témoigner, osez reprendre votre liberté. Sortez de la honte, du silence, de l'isolement et de la résignation. La vie n'est pas et ne peut pas être une simple succession de parenthèses hébétées entre deux prises de traitement psychiatrique. Ce n'est pas parce qu'actuellement celles et ceux qui manifestent contre le projet de réforme de l'internement psychiatrique sont majoritairement des professionnels de ce secteur en désaccord qu'il ne vous resterait plus qu'à vous abstenir de vous joindre à nos voix qui sont celles de patients et d'anciens patients en lutte contre les projets gouvernementaux actuels concernant le champ psychiatrique. Les premières victimes de la réforme sécuritaire des modalités de contraintes psychiatriques en cours d'adoption seront les patients et les patientes qui subiront ces mesures. Psychiatriser, résistance. Voilà, c'est un message du CRPA. Et donc, nous allons écouter André Bitton qui nous parle donc de ce bilan sur 6 années d'exercice. 6 mois d'exercice de cette loi du 5 juillet 2011.
Ce projet de réforme a mobilisé contre lui des psychiatres syndicalistes et c'est à partir de là que le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, qui est un collectif de soignants qui s'est formé en décembre 2008 contre le discours de Nicolas Sarkozy à l'hôpital Erasme d'Antony le 2 décembre 2008, est monté au créneau et en parallèle le collectif Mais c'est un homme a été formé. Le collectif Mais c'est un homme est formé de psychiatres plus ou moins sortant, issu du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, et qui se donnait comme propos d'organiser des forces vives, des organisations, contre le projet de réforme Bachelot. Alors, le collectif Mais c'est un homme a donc été formé essentiellement autour de ces psychiatres, du syndicat, l'Union syndicale de la psychiatrie, autour de Paul Bouzoun, un syndicat gauche-extrême-gauche, donc issu des vieilles thèses de la psychothérapie institutionnelle de l'après-Deuxième Guerre mondiale, Lucien Bonnefé, courant soutenu à l'époque par le Parti communiste français contre les institutions asilaires, etc. Également la période antipsychiatrique, mais également la Ligue des droits de l'homme a rejoint ce collectif et a été une cheville ouvrière. Nous, on l'a rejoint, le syndicat Sud Santé Sociaux, et des organisations politiques telles le Parti de gauche, le Front de gauche, le Parti communiste français, les Verts, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste également. Enfin, le collectif Mais c'est un homme fédérait des organisations. Et parmi ces organisations, un syndicat qui a joué un rôle très important avec la Ligue des droits de l'homme, qui a été en cheville ouvrière, le syndicat de la magistrature, dont les représentants ont fait des interventions souvent très, très intéressantes et très fournies. Et donc il s'est trouvé qu'en septembre 2010, j'apprenais par une syndicaliste de Sud que dans une instance dont j'avais déjà été au courant au début de la procédure, quelqu'un que je connaissais avait introduit une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État, que le Conseil d'État avait accepté le 24 septembre 2010 et envoyé au Conseil constitutionnel.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une question
prioritaire de constitutionnalité? Alors c'est la réforme de la Constitution de 2008 sous l'égide de Nicolas Sarkozy, enfin réforme de la saisine du Conseil constitutionnel qui aurait dû être faite sous Mitterrand mais que Mitterrand avait sursis avec la contestation d'une partie des parlementaires de gauche refusant la perspective d'un gouvernement des juges. Cet épouvantail du gouvernement des juges. À savoir que des requérants, des gens en procédure, puissent et à qui on oppose telle disposition législative qui n'a jamais été contrôlée par le Conseil constitutionnel. Sous la triple condition que cette clause législative n'ait jamais été contrôlée par le Conseil constitutionnel, que la demande de contrôle d'envoi au Conseil constitutionnel soit sérieuse et qu'elle soit nouvelle. Bon. Et bien donc, un requérant pouvait, au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité, demander que cette disposition législative jamais déférée au contrôle du Conseil constitutionnel soit envoyée par la juridiction devant laquelle il était au Conseil d'État ou à la Cour de cassation selon, pour décision d'envoi au Conseil constitutionnel, pour décision sur contrôle de la constitutionnalité de cette décision, de cette disposition. En l'espèce, la loi du 27 juin 1990 n'avait jamais été déférée au contrôle du Conseil constitutionnel.
Oui.
Donc, cela laissait, à partir de 2010, quand la réforme de 2008 est rentrée en vigueur en mars ou avril, je ne me rappelle plus, 2010, je crois, en avril 2010, ça laissait la possibilité de demander que les dispositions de la loi du 27 juin 1990 sur l'hospitalisation psychiatrique soient envoyées question par question, article par article, à une censure éventuelle du Conseil constitutionnel. Eh bien, le 24 septembre 2010, c'est ce qui s'est passé pour la première fois. Le Conseil d'État a admis que l'ensemble des dispositions sur l'hospitalisation à la demande d'un tiers, donc l'internement sur demande d'un tiers, ainsi que l'ancien article 3211-12 sur le contrôle à la demande, sur la demande des requérants, des internés par le juge des libertés de la détention, ainsi que des dispositions sur les droits incompressibles des patients internés, soient déférées à une censure éventuelle du Conseil constitutionnel, à charge pour le Conseil constitutionnel d'examiner ces dispositions et de statuer sur la constitutionnalité de ces articles. C'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel le 26 novembre 2010. Alors, à l'époque, je présidais le groupe Information Asile et j'avais décidé, avec un accord des membres du bureau qui, pour le reste, s'en fichaient complètement, j'avais toute la charge de travail sur le dos et c'était dans une indifférence assez ennuyeuse, j'avais décidé que le GIA intervenait volontairement dans cette instance avec l'accord de la requérante, l'accord de son avocate, et on avait donc pris avec notre avocate, maître Corinne Vaillant, des conclusions d'intervention volontaire devant le Conseil constitutionnel qui avaient été acceptées par les magistrats constitutionnels et envoyé en audience. Et donc c'est comme cela que le groupe Information Asile s'est retrouvé intervenant volontaire à défendre les thèses, la thèse de la nécessité d'une judiciarisation du processus de l'hospitalisation sans consentement. Le Conseil constitutionnel a censuré par décision du 26 novembre 2010 l'article du Code de la santé publique ancien sur le maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers, en disant qu'il était inadmissible et non constitutionnel qu'une hospitalisation à la demande d'un tiers puisse être maintenue au-delà du délai de 15 jours sans que la mesure soit contrôlée par un juge judiciaire au titre des garanties des droits fondamentaux des personnes enfermées ou tenues sous contrainte. Et que donc le contrôle judiciaire devait être instauré pour garantir les libertés individuelles des patients. Ce qu'on réclamait depuis très longtemps. Nous, on réclamait une judiciarisation a priori. Donc, le 26 novembre 2010, c'est un coup de gong. Le Conseil constitutionnel le laisse le 26 novembre 2010, jusqu'au 1er août 2011 au gouvernement pour changer de législation sur ce point. Le gouvernement et le Parlement sont à agenda serré, forcé, puisque si le 1er août, des dispositions ne sont pas réformées sur ce point, l'ensemble des décisions de maintien en HDT seront illégales à travers le pays. C'est-à-dire que des dizaines de milliers de décisions seront illégales et que les personnes pourront se pourvoir en illégalité, en annulation et donc en sanction indemnitaire. Bon, donc le gouvernement qui avait son projet de réforme, qui n'avait rien à voir avec une quelconque judiciarisation des internements, prend des dispositions rectificatives et progressivement la majorité, le gouvernement et la majorité parlementaire, sénatorial, enfin au Parlement, à l'Assemblée nationale, se voit contraint d'adopter des dispositions qu'il rejetait. Si bien que sous la pression d'une simple requérante, de deux avocats, d'une association marginalisée et combattue en tant que négativiste, hystéro, procédurière et paranoïaque, nous autres, et d'un courant minoritaire, il y a un véritable putsch judiciaire qui se produit. En vertu des décisions, de la décision du Conseil constitutionnel, suivant en cela la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et la nomenclatura française psychiatrique, le gouvernement, sa majorité, sont obligés d'adopter un schéma de judiciarisation partielle de l'internement.
Alors cette loi donc est du 5 juillet 2011, est passée, donc elle est entrée en application le 1er août, et elle impose plusieurs mesures. Garde à vue de 72 heures, assortie d'un programme de soins en ambulatoire, l'élaboration d'un casier psychiatrique, un seul certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil pour l'admission, donc des facilités pour l'admission, le pouvoir du préfet et du maire et du commissaire de police à Paris pour les admissions et les modifications des programmes de soins. Cette loi supprime aussi les sorties d'essai et n'autorise que les sorties thérapeutiques. Elle impose un collège d'experts aussi dans la procédure de levée de l'hospitalisation ou de sortie d'hospitalisation. Elle est en voie aussi de créer une véritable perpétuité psychiatrique en accordant que difficilement les procédures de main levée, des mesures ou des allègements des modalités de prise en charge pour les personnes ayant bénéficié d'une décision d'irresponsabilité pénale ou celles séjournant ou ayant séjourné en UMD, en unité pour maladie difficile. Et par ailleurs, elle prévoit de prendre en compte, aussi le passé judiciaire des personnes concernées comme élément déterminant des modalités de prise en charge. Le texte de cette loi est en fait entièrement répressif. En même temps, à la fois un résumé de la pratique asilaire, on peut dire, et une déclaration de guerre aux droits fondamentaux de l'être humain.
Alors, c'est pas si simple. Hein. Nous, c'est ce qu'on a défendu très rapidement dès le mois de juin 2011. C'est-à-dire qu'une large partie de la trame, une grande partie, correctement, de la trame du projet de réforme initiale, du projet de Bachelot, est passé, il a été adopté. Notamment les programmes de soins, donc la possibilité de contraindre aux soins en ambulatoire, notamment le collège de soignants internes, un collège de 3 soignants nécessaires pour obtenir, avec les experts désignés par le magistrat ou par la préfecture, pour obtenir la main levée d'une ancienne HO, une hospitalisation d'office, actuelle SDRE, pour les personnes médico-légales objet d'un non-lieu judiciaire ou l'ayant été dans un laps de temps de 10 ans antécédent, ou ayant séjourné plus d'un an en unité pour maladie difficile dans le laps de temps de 10 ans précédent. Le laps de temps de 10 ans, désormais, fixe une durée pour un certain droit à l'oubli, avec également la garde à vue sanitaire de 72 heures. Ça, c'est sûr, ce sont les dispositions hyper répressives, avec le fait qu'il y a ce dépôt à l'heure actuelle dans le pays, de façon on ne peut plus réclamer par le gouvernement, par l'exécutif, etc., des véritables perpétuités psychiatriques pour les personnes médico-légales, objet d'un non-lieu ou l'ayant été, ou ayant séjourné plus dans un laps de temps de 10 ans antécédent, plus d'un an, en unité pour maladie difficile. Puisqu'il faut réunir 5 avis soignants concordants pour obtenir une levée, plus l'accord du préfet ou du directeur d'établissement, enfin du préfet, plus l'accord du magistrat. Donc ça fait des conditions. Mais ouais, il n'en reste pas moins que dans cette loi, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, puis celle du 9 juin 2011, le droit d'accès au juge, le droit d'accès à la défense a fait irruption dans le débat, et qu'on a donc un schéma à deux pôles, un schéma où il y a sur un pôle une répression psychiatrique accentuée, et sur l'autre pôle, l'émergence qui était inouïe en France, puisque le droit n'avait pas voué au chapitre dans l'institution psychiatrique depuis la vieille loi de 1838, l'émergence du droit, oui, des prétoires, des avocats. Il faut bien voir que les avocats prennent possession du terrain graduellement, certes avec de très grandes difficultés parce qu'ils sont très peu payés pour les contrôles de plein droit, mais ils prennent position. Il y a un certain nombre de cabinets d'avocats qui s'en font une spécialité. Donc le schéma n'est pas si simple. Et d'ailleurs, c'est ce qui apparaît dans les bilans qui sortent. Alors néanmoins, on peut se poser la question, est-ce que l'instauration du contrôle de plein droit des hospitalisations sans consentement, pas des programmes de soins, pas de la contrainte aux soins, en dehors des périodes de temps complet, est-ce que ça a amené sur 6 mois une baisse des hospitalisations sans consentement? Ce n'est pas le cas. Il semble que ce ne soit pas le cas. Il semble donc qu'il y ait des modalités d'échappement au contrôle de plein droit des juges, parce que bon, quand on est hospitalisé à temps complet, on n'est pas dans un schéma de facilité à l'admission et au maintien, pas du tout, puisqu'on a jusqu'à 6 certificats médicaux à fournir. Les établissements ont jusqu'à 6 certificats médicaux à fournir, parfois 7. D'accord. Donc quand on maintient la personne en hospitalisation contrainte à temps complet, plus de 12 jours, eh bien non, au contraire, c'est plus compliqué qu'avant. C'est quand on établit, à l'issue des gardes à vue sanitaires des 72 heures de la période d'observation préalable et de soins, quand on établit un programme de soins et que la personne sort en hospitalisation à temps partiel ou en obligation de soins à l'extérieur, qu'à ce moment-là, il n'y a plus le contrôle obligatoire du juge, le JLD ne peut plus être saisi qu'à la demande, hein, et à ce moment-là, on échappe au contrôle, et à ce moment-là, c'est simple.
Bon, on en reparlera plus précisément tout à l'heure. Nous sommes allés, donc, le 4 février, à cette réunion publique de bilan de six mois d'exercice d'application de cette loi du 5 juillet 2011.
Oui, donc on y est allé. Il y avait une cinquantaine de personnes qui se sont saisies des différentes questions. On a eu une présentation, des retours sur cette loi de différents interlocuteurs avec des différentes fonctions. Alors je vous donne les noms des personnes. Xavier Dupont, qui est secrétaire général auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Judith Klein, chargée de mission à la Commission consultative nationale des droits de l'homme. Catherine Chabanne, avocate au barreau de Bobigny. Xavier Gadra, juge des libertés et de la détention. Claire, Jéquier, psychiatre en service public. Donc, le débat portait essentiellement sur les modalités pratiques de la loi, surtout sur les modalités pratiques. Donc, en ce qui concernait la vérification du respect des droits des patients, et puis la mise en place des audiences avec le juge
des libertés
et de la détention, soit dans les hôpitaux, soit dans les tribunaux. Alors, moi, j'ai retenu quand même certaines choses, au moins là, trois choses qui reviennent assez souvent. Alors, sur le contrôle, il y a une limitation des possibilités de contrôle. Il y a des contournements, y compris aussi pour le juge des libertés et de la détention. Il y a aussi une autre difficulté, c'est le manque de personnel qui affecte les hôpitaux en ce moment. Les personnels sont peu incités à se mobiliser, en plus à se faire une charge de travail pour aménager une audience, un endroit et un accompagnement d'audience dans l'hôpital.
Ils n'ont pas l'habitude aussi.
Ils ne savent pas, ils ne sont pas encore formés. Ouais. C'est nouveau. Donc les avocats ont commis d'office, sont très peu payés, donc ils n'ont pas envie de se déplacer dans les hôpitaux. En ce qui concerne les audiences dans les tribunaux, pour le malade, c'est très... les patients, c'est très inconfortable, il y a beaucoup d'attentes. Pour le fait d'y aller dans une tenue pyjama d'internement, c'est pas non plus très... C'est un petit peu humiliant aussi, il faut dire ce qu'il y a. La situation est assez difficile en général. Bon, c'est variable selon les endroits. Soit on a un endroit à l'hôpital, soit on a un petit endroit dans les tribunaux. Enfin bon. Sur le patient, alors les patients, quand ils se présentent devant le JLD, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand ils viennent, ils s'investissent, ils comprennent bien de quoi il s'agit, qu'ils ne sont pas jugés. Quand on leur explique bien, ils comprennent et ils s'investissent du coup dans l'espace de parole. Et aussi, ça va même aussi plus loin, puisque ça permet une interpellation sur les conditions d'hospitalisation. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai pu remarquer, qui revenait souvent. On approfondira un peu sur le reste. Pour le moment, j'aurais une question, un peu une double question. Sur votre impression générale au sortir de ce débat, une impression un peu aussi politique, et puis sur votre optimisme quant à l'application au respect du droit du patient à venir. Est-ce que ça va progresser? Est-ce que voilà.
Je recite vos questions. Alors, ce que je pense, donc André Bitton du CRPA, ancien président du GIA. Moi, au sortir de cette conférence débat, j'étais très satisfait de cette conférence débat parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne tenue. Et j'ai trouvé qu'on a eu, à travers les différentes interventions et les échanges avec la salle, on a eu un éclairage assez important, assez intéressant de l'application de cette loi. Alors, moi, personnellement, il y avait Maître Catherine Chabanne, avocate au barreau de Bobigny, qui intervenait, parce que sur son barreau et sur la juridiction de Bobigny, c'est une véritable catastrophe. Il y a un hôpital, il se trouve, l'hôpital Villepart, on n'est pas le nommé, dans lequel la commission médicale d'établissement a pris la décision de boycotter, d'ailleurs ainsi que l'hôpital Paul Guiraud Villejuif, hein, sur Créteil, sur la juridiction de Créteil, hein, de boycotter les audiences au JLD, les magistrats du JLD, les magistrats du TGI de Bobigny ne voulant pas se déplacer dans l'hôpital par faute d'effectifs. Et donc Villepart a décidé également, pour des raisons de principe, de refus de l'immixtion du juge et de levée du secret médical par rapport au monde judiciaire, de ne pas envoyer les patients aux audiences. Donc les médecins certificataires, les psychiatres certificataires de Villepart font systématiquement des certificats médicaux qui souvent d'ailleurs sont des faux, sont des certificats de complaisance, disant que pour des raisons médicales, la personne est inapte à comparaître à son audience. Si bien qu'on lui commet d'office un avocat, l'audience a lieu en cabinet entre le JLD et l'avocat commis d'office, sur pièce, que le patient n'est pas vu. C'est ce qu'elle dénonce. Et elle dit, c'est une véritable mascarade, c'est inadmissible. Si c'est ça, cette loi, ça ne sert à rien. Bien. Alors, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans le cadre d'une juridiction précise dans laquelle il y a un établissement qui a décidé, de façon d'ailleurs assez scandaleuse, d'ailleurs c'est à la base ce boycott, de boycotter cette disposition utile de la loi du 5 juillet, ce boycott est en partie de psychiatres, partie prenante du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, opposant à la logique sécuritaire, mais également opposant à tout contrôle judiciaire. Oui. Si bien qu'on se trouve là, nous, en alliance, parce que nous, on contestait également le projet de réforme, en alliance avec des psychiatres qui contestent le projet de réforme en tant que sécuritaire, ce que nous contestons aussi, mais qui contestent l'intrusion du monde judiciaire et qui contestent que nous, les patients et anciens patients, ayons de quelconque droit à faire valoir en justice. Bon, ça a valu depuis un an de quelques bonnes vieilles engueulades entre nous, hein, ça je vous le dis pas. Hein. Mais enfin bon, toujours est-il que sur Villepart, ils ont emporté cette décision, si bien que les avocates volontaires, parce que Maître Catherine Chabanne s'est portée volontaire, intéressée par la question pour organiser la commission hospitalisation sans consentement du barreau de Bobigny. Bon, donc elle réunit les bonnes volontés, il y a 30 inscrits dans sa commission, mais ils ne voient pas les patients. Et c'est sans solution, puisque étant donné que leur mission à l'aide juridictionnelle est payée 98 € par contrôle, certains avocats, pour rentabiliser ces contrôles de plein droit, en prennent 4 à 5 la matinée ou l'après-midi, se font donc 400 à 500 euros, et en restent là. Mais on reste là avec des audiences sur dossier, ce qui n'est absolument pas satisfaisant. Et donc elle dit que c'est une boucherie, que c'est un non-sens, que ça ne rime à rien, et que si c'est ça cette réforme, ça ne vaut rien. Mais c'est le point de vue de Maître Chabanne. Mais c'est-à-dire elle est victime, et ses collègues sont victimes d'une situation très précise. Sur Créteil, c'est encore pire. L'hôpital Paul Guiraud Villejuif, avec l'unité pour malades difficiles, Henri Collin, a décidé par une décision du directeur de l'établissement de fin juillet dernier de boycotter les audiences au JLD, les magistrats de Créteil ne voulant pas se déplacer dans l'hôpital faute d'effectifs, et eux disant nous n'avons pas suffisamment d'effectifs pour assurer la sécurité dans les transports. Donc, de toute part, les magistrats veulent pas se déplacer. La direction de police du Revis Juif refuse, pour la raison de sécurité, d'envoyer les patients aux audiences. Il y a une unité pour malades difficiles. Et donc, faute qu'un moyen terme soit trouvé, il n'y a pas d'audience pour cet hôpital sur Créteil. Et donc là, mais sauf que les JLD de Créteil sont... Il y en a certains qui ont compris et qui ont accordé des mains levées. Il y a eu des mains levées qui ont été accordées parce que les patients n'étaient pas présentés. Hein. Alors là aussi, les audiences se passent sur dossier avec un avocat commis d'office, puisque la personne ne peut pas comparaître, on lui commet d'office un avocat. Sans ça, l'avocat n'est pas obligatoire. Un juge et l'avocat qui discutent sur dossier sans qu'on voit l'intéressé. C'est en effet pas satisfaisant. Mais je veux dire, cela vient d'un boycott par les hôpitaux de l'application de la loi. Donc, alors attendez.
Oui, bien sûr.
Mais je veux dire, au niveau de la magistrature, c'est-à-dire où ça peut se comprendre, parce que déjà, il y a une tension sur les effectifs qui est énorme, la charge de travail s'est accrue, tandis que du côté des hôpitaux, il y a une question de principe. Vous avez certains hospitaliers, comme c'était le cas de certains psychiatres du collectif de 39, qui disaient nous ne voulons pas de l'intrusion du monde judiciaire, parce que nous ne voulons pas d'un contrôle judiciaire sur nos pratiques. Et nous ne voulons pas avoir à considérer sous l'œil judiciaire une problématique des droits fondamentaux des patients, parce que c'est nous, les soignants, qui sommes les garants des droits fondamentaux des patients. Mmh. Enfin, sauf que de ce côté-ci, et du côté de Radio Libertaire, d'ailleurs, qui a longuement soutenu antécédemment par des mouvements dont vous relevez les luttes antipsychiatriques, si depuis 1838, la vieille loi sur l'enfermement des aliénés, les psychiatres et les soignants avaient été les garants des droits fondamentaux des aliénés, ça se serait su, on l'aurait su quelque part. Alors, on n'en a rien su. Depuis près de deux siècles, on n'a rien su. Donc si on n'a rien su, c'est qu'il y a un problème là-dedans.
Une transparence.
Oui, voilà, il y a un net problème. Donc, alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est vrai que le point d'échec de cette loi, mais enfin ça, c'était la programmation de la lettre rectificative du gouvernement de janvier 2011, et c'est ce qu'on avait dit en cours de débat, ce qu'on avait défendu avec « Mais c'est un homme », que le fait que seule l'hospitalisation sans consentement soit contrôlée judiciairement et encore au délai de quinzaine, et pas les programmes de soins, non plus l'hospitalisation temps partiel, à savoir que si on place une personne en hospitalisation 23 heures sur 24, et qu'on lui accorde une heure de sortie, il n'y a plus de contrôle obligatoire du juge.
C'est aussi une ruse.
Oui,
c'est un détournement
de la loi. Ou de même que si on dit à la personne, vous rentrez chez vous le week-end, vous réintégrez lundi matin et vous ressortez vendredi soir, il n'y a pas de contrôle obligatoire au magistrat. Bon, eh bien nous réclamons et nous commençons à nous faire entendre, et avec les autres organisations, notamment le syndicat de la magistrature, et notamment l'Union syndicale de la magistrature, également l'Union syndicale des magistrats majoritaires. Et avec le collectif Mais c'est un homme, nous réclamons que les programmes de soins soient également judiciarisés, sous contrôle judiciaire. Alors nous venons de nous faire entendre, puisque sur une question prioritaire de constitutionnalité du CRPA, déposée sur des requêtes en annulation contre les décrets d'application de la loi du 5 juillet et du 18 juillet, le Conseil d'État, le 8 février dernier, donc nous sommes le 14, le 8 février dernier, le Conseil d'État a décidé de nous envoyer devant le Conseil constitutionnel sur quatre articles clés de la loi du 5 juillet 2011 en examen de constitutionnalité de ces articles. Et nous allons soutenir, nous avons déjà soutenu, et nous allons continuer à soutenir au Conseil constitutionnel que ces quatre articles sont non constitutionnels. Alors, il s'agit de l'article sur les programmes de soins. Nous disons qu'il n'y a pas de contrôle judiciaire, donc il n'y a pas de garantie pour les libertés individuelles. Il s'agit de l'article sur les contrôles à 6 mois sur l'hospitalisation temps complet. Il y a un contrôle du juge de la liberté à quinzaine, pour le renouvellement de quinzaine, puis tous les 6 mois.
Oui.
Eh bien, nous soutenons que l'intervalle 15 jours, 6 mois, c'est trop ample, et que cet intervalle, le renouvellement du contrôle à 6 mois, pour la seule hospitalisation contrainte temps complet, doit être déclaré inconstitutionnel, parce que l'intervalle est trop long. Nous disons également que le collège de soignants imposé pour toute décision éventuelle de main levée pour les personnes médico-légales relevant d'un non-lieu judiciaire ou ayant un passif d'une unité pour maladie difficile ou ayant de tels antécédents sur 10 ans avant, ce collège est anticonstitutionnel parce qu'il fiche par terre les droits de recours des personnes internées de façon médico-légale et ressortissant. Et par là même, l'article de loi qui fixe les modalités de levée pour les médicaux légaux et les personnes à antécédents médico-légaux, l'article 32.13.8 est également envoyé en contestation. Donc nous serons, le Conseil constitutionnel va probablement audiencer notre affaire fin mars, début avril, et vers le 10 avril, on devrait être à peu près au courant de la décision de censure éventuelle du Conseil constitutionnel. À l'occasion de ce délibéré, d'ailleurs, le CRPA va faire une conférence de presse. Nous ferons une conférence de presse dont je peux vous annoncer qu'elle aura lieu, ce sera aux alentours du 10 avril, elle aura lieu à la Maison des avocats du barreau de Versailles, avec l'accord du bâtonnier de Versailles. C'est-à-dire que nous sommes convenus avec notre avocat, maître Raphaël Maillet, du barreau de Versailles, de démarrer cette conférence de presse faisant un point de la décision du Conseil constitutionnel et de nos revendications à la matière. Nous sommes convenus de le faire dans un endroit symbolique, une maison de l'ordre des avocats, en l'espèce de l'ordre des avocats de Versailles, pour mieux marquer que nous demandons également l'instauration de permanence d'avocats dans les hôpitaux psychiatriques. Parce que nous réclamons l'instauration de permanence d'avocats dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, par ailleurs, le bilan à 6 mois fait par mais c'est pas un homme, on pourra noter que Mme Klein, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, a bien dit que désormais la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, porte un certain intérêt, et elle a retracé l'historique d'ailleurs, un certain intérêt aux problèmes psychiatriques. Alors qu'auparavant, elle ne s'y intéressait pas, ou très lointainement. Alors, la Commission nationale consultative des droits de l'homme est formée, c'est une commission administrative, désignée par décret ou par arrêté, je ne sais plus, publiée au JO, dont les membres sont, comme ça, désignés par le gouvernement. Elle est formée pour partie d'institutionnels et pour partie des grandes centrales associatives s'occupant des droits de l'homme. Alors ainsi, la Ligue des droits de l'homme fait partie, au niveau des organisations associatives, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il y a un siège. Il y a également les grandes entités religieuses, les monothéismes. Mais enfin, ils n'admettent pas la fédération anarchiste. On me demande pourquoi.
Les yeux y mettre, c'est normal.
Bon, bref. On peut noter que, d'après Mme Klein, la Commission nationale consultative des droits de l'homme se pose la question de la légitimité du pouvoir psychiatrique en regard des droits de l'homme. On note également que le secrétaire général du contrôleur général des lieux de privation de liberté, le CGLPL, le contrôleur général a été mis en place essentiellement sur les prisons, et que le service du contrôleur général sont amenés de plus en plus à s'intéresser à la psychiatrie. Bien. Alors, on note également que Xavier Gadrat, au titre du syndicat de la magistrature, en tant que juge des libertés de la détention de Bordeaux, souligne que ses collègues magistrats s'intéressent de plus en plus à la question. Parce que ce qu'on voit depuis 6 mois, c'est que si à la base la majorité des magistrats étaient contre une réforme de l'internement psychiatrique judiciarisant les internements, à l'heure actuelle, la majorité des magistrats et de leurs syndicats considèrent que c'est une mesure utile, qu'on leur demande quelque chose de correct, et qu'au contraire, tout le champ de la contrainte psychiatrique devrait être judiciarisé. Parce que maintenant, c'est l'union syndicale, l'USM, l'union syndicale des magistrats qui considère cela, avec le syndicat de la magistrature, et l'union syndicale des magistrats est majoritaire.
Oui, donc, vous voyez, il y a une évolution.
Il y a une nette évolution. Oui, oui. Et du côté des audiences, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ceux qui se plaignent des audiences, la majorité de ceux qui se plaignent des audiences sont les personnels hospitaliers, pas les patients. Puisque les journalistes relèvent dans leurs interviews que les patients sont souvent contents de voir le juge. Même si leur demande est rejetée, au moins ils peuvent parler.
Voilà. Ouais.
C'est ce que révèlent les articles de presse du Canard Enchaîné, de Libération, du Monde, de la presse régionale, et que ceux qui considèrent que non, ça va pas, qu'on a vu des juges des libertés de la détention engueuler les personnels médicaux parce qu'on leur envoyait aux audiences des patients en pyjama. En train de dire, comment ça se fait que le patient est en pyjama, s'il vous plaît?
Oui.
Voilà.
Bon, donc tout ça, c'est pas si simple, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de bavures qu'on a pu constater, et on a pu notamment constater que des patients sont envoyés au contrôle de plein droit des hospitalisations sans consentement de plus de 15 jours, au contrôle des juges des libertés de la détention, sans qu'on leur explique que c'est un juge civil qui n'est pas chargé de les incriminer, ce n'est pas un juge pénal, c'est un juge garant des libertés. Et donc les patients disent, pour vous, je vois le juge, j'ai rien fait. On va encore m'accuser, on va me charger la barque. Et on n'explique pas aux patients que ce n'est pas un juge répressif, c'est un juge civil. Donc, mais là-dessus, c'est le défaut d'information sur les droits. C'est pour ça notamment que dans le cadre de Mais c'est un homme, nous avons sorti, début novembre, une plaquette d'information très systématique sur les droits des personnes en hospitalisation sans consentement et en programme de soins, afin de diffuser cette plaquette ou de la faire diffuser, de la faire admettre par les autorités institutionnelles pour qu'elle soit remise aux patients, en tout cas dans le livret d'accueil. Donc voilà, pour l'instant, on est là. Pour moi, cette conférence débat présentait un très grand intérêt de faire un point. Et parmi ces points, alors là, un point qui est tout à fait négatif, au titre des contournements de la loi, au titre de la possibilité d'envoyer des gens sous programme de soins très rapidement pour qu'on évite un contrôle judiciaire, on évite la problématique de l'avocat également. Madame Claire Jéquière, psychiatre des hôpitaux en Savoie, membre de l'USP, l'Union syndicale de la psychiatrie, syndicat psychiatre gauche-extrême-gauche, nous annonce par les chiffres de Savoie et des statistiques rendues publiques par l'ADESME, l'Association des directeurs d'établissements en santé mentale, qui comprend un grand nombre d'établissements psychiatriques à travers la France, publics et privés, que les chiffres statistiques des hospitalisations sans consentement et des mesures de soins contraints sont en hausse par rapport aux années précédentes. Alors, ce qui pose problème, c'est-à-dire que normalement, l'introduction du juge aurait dû avoir pour effet de faire baisser la quantité statistique de par le contrôle judiciaire, mais comme il y a ces possibilités de passer outre et de mettre les gens en programme de soins et d'évacuer la problématique judiciaire et du contrôle judiciaire, et comme pour le contrôle judiciaire, on fait sortir prématurément des tas de gens, donc il y a un effet tourniquet, on fait sortir les gens au bout de 3 jours, donc on réadmet des gens parce que des gens sont sortis. Vous voyez, donc il y a un effet tourniquet comme ça, eh bien la quantité statistique de mesures semble a priori être en hausse. Elle parle, Mme Jéquière a parlé, si bien compris, d'une hausse variant entre 10 et 20%, ce qui est quand même assez conséquent, en tout cas une hausse de 10%. Donc on voit bien qu'il y a une urgence à ce qu'on puisse en débattre devant le Conseil constitutionnel, et nous espérons, dans la QPC-CRPA, donc envoyée par le Conseil d'État le 8 février 2012, qui sera envisagée fin mars, début avril au Conseil constitutionnel en audience, que le Conseil constitutionnel va nous donner gain de cause et va censurer l'article L3211-2-1-2 du Code de la santé publique sur les programmes de soins, comme ne présentant pas de garantie pour les libertés individuelles et pour les droits fondamentaux des personnes, parce qu'il n'y a pas de contrôle judiciaire. Qu'au moins cela se soit censuré. Et qu'également, la question du sort des médico-légaux et de ces perpétuités psychiatriques qui se créent actuellement soit envisagée. Moi, j'ai souligné, dans un rendez-vous cas en main, un rendez-vous qu'on a eu dans le cadre du collectif Mais c'est un homme avec le Xavier Dupont, le secrétaire du contrôleur général des lieux de privation de liberté, le 10 novembre, que nous avons des cas, et je vais citer le cas, un cas notamment qui a été défendu par le GIA après la scission CRPA, sur un dossier que moi j'avais démarré en 2010 quand j'étais président du GIA, M. Jean-Michel Sa de Rennes, qu'il y a en effet le problème de perpétuité psychiatrique pour des gens qui n'ont pas commis de faits criminels.
Oui.
Mais qui sont, pour des faits correctionnels, des faits, déclarés irresponsables au plan psychiatrique. Et que, de facto, les difficultés à la main levée sont telles que ce sont des perpétuités, ce qui est inadmissible. Alors, j'ose espérer que le Conseil constitutionnel va se pencher sur cette question, et qu'une partie de la loi du 5 juillet va donc être censurée début avril, ce qui va reprovoquer une nouvelle réforme législative et un nouveau passage au Parlement. Donc le prochain gouvernement, si le Conseil constitutionnel censure, début avril, le prochain gouvernement, il va fixer une date délai de 8 à 10 mois après, ou un an, le prochain gouvernement issu des urnes va devoir de nouveau, si le Conseil constitutionnel censure sur notre QPC, va devoir de nouveau se pencher sur une réforme de l'hospitalisation sans consentement et des soins sans consentement en matière psychiatrique. Donc de ce côté-là, je suis pas pessimiste, au contraire. Je te l'avais dit, Denis, dans un interview qu'on a vu au mois d'août, je pense que les perspectives sont très ouvertes et que l'action actions, les actions juridiques qu'on a pu mener ont ouvert le champ de la contestation. En ouvrant le champ de la contestation, ouvre les possibles. Cela étant, on est dans une situation qui ne reste pas moins très répressive et très sévère.
Le métro ferme à 1h du mat. Le métro ouvre à 6h du mat. Monoprix ouvre à 10h. Monoprix ferme à 20h. Les enfants partent à 8h. Les enfants reviennent à 16h. Le repas commence à 20h. On débarrasse à 20h30. Je suis borderline. T'es borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. La dame du troisième sort à 10h. La dame du troisième revient à 11h. Les acédiques ouvrent à 9h. Les acédiques ferment à 16h. Tu commences le boulot à 9h. Termine le boulot à 18h. Tu t'endors à 23h. Tu te réveilles à 7h du mat. T'es borderline. J'suis borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. Le feu vert s'allume à minuit. Le feu rouge à minuit 2. Le feu vert revient à minuit 2. Le feu rouge à minuit 4. La dame du troisième sort à 21h. La dame du troisième revient à 21h30. L'ascenseur descend à 21h30. Remonte à 21h31. Je suis borderline. Téléphone à midi 16, un cri à 15h07, une voix d'homme à 22h, un chat à 1h, une radio à 2h20, une Mercedes à 5h du mat. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Radio Libertaire, émission L'Entonnoir, critique de la psychiatrie, entre toutes les semaines, entre 9h30 et 10h30, le mercredi matin. Alors aujourd'hui, nous avons invité André Bitton pour nous parler de cette réunion du 4 février, un débat public qui fait état d'un bilan à 6 mois de la loi du 5 juillet par le collectif Mais c'est un homme, et aussi des chiffres qui sont apparus au bout de 3 mois d'exercice de l'homme, du GLD dans les procédures d'hospitalisation.
Oui, Xavier Gradra, le GLD, qui était présent à ce débat, qui nous a donné le chiffre de 1000 malvés sur un peu plus de 15 000 saisines. Voilà, donc j'aurais posé la question de dire ce que ça. Vous demandez ce que ça signifiait, et puis aussi les perspectives, les moyens de lutte et les perspectives de Mais c'est un homme, du CRPA, pour arriver à lutter en faveur des droits du patient.
Si vous voulez, pour moi, les perspectives sont assez ahurissantes, parce que moi, j'ai connu l'ancienne période où on intervenait du temps de la commission juridique du groupe Information Asile, à l'époque, il y a 20 ans. On faisait des dossiers parfaitement artisanaux, tout le monde s'en fichait, les avocats, il n'y en avait pratiquement pas, très peu, deux, trois étaient spécialisés à travers le territoire national. On était obligé de banquier les dossiers comme ce n'était pas permis. Les procédures de demande de main levée duraient 4, 5, 6 mois devant les juges des libertés de la détention. Enfin, on se fichait, franchement, du monde. Et jusqu'à il y a quelques années, on obtenait péniblement toutes compétences réunies à travers la France. S'il y avait 200 décisions de main levée par an, c'était un grand maximum. Alors là, le contrôle de plein droit des seules hospitalisations, sans consentement, hein, sans que les programmes de soins soient contrôlés de plein droit, ça fait, donc d'après les chiffres rendus publics par la chancellerie, par le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, pardon, le 1er décembre 2011, il y aurait eu entre août et octobre, sur 3 mois, il y a donc eu 15 243 saisines des JLD, se ventilant pour les hospitalisations sans consentement, se ventilant en environ 14 000 contrôles de plein droit, des contrôles obligatoires, et un millier de saisines facultatives, de saisines volontaires. Et on obtient 6,5% de mains levées sur les contrôles de plein droit et 7,6% de mains levées sur les contrôles facultatifs à la demande des gens. Ce qui nous fait environ un millier de mains levées d'accordées en 3 mois, ce qui nous donne une projection de 4000 mains levées par an. Mais 4000 mains levées par an, il faut bien voir que certes c'est pas beaucoup dans l'absolu, vous avez des avocats qui disent oui mais quand même c'est pas terrible, on n'obtient pas beaucoup de mains levées, mais quand on compare à ce qui se passait avant, c'est une véritable explosion, puisqu'on passe de 200 mains levées par an à 4000, c'est-à-dire mains levées par an, c'est-à-dire à peu près 20 fois plus. On a donc l'irruption du droit dans le terrain, parce que jusqu'à présent le droit était non grata en matière psychiatrique. Jusqu'à il y a peu, moi, personnellement, j'ai été qualifié par des psychiatres, on ne peut plus patenter, d'être un grand paranoïaque procédurier qui valait bien la camisole chimique. Et certains d'entre nous qui retombaient en internement subissaient les foudres des représailles psychiatriques parce qu'on avait osé faire procès. Nous avons eu un ancien membre du groupe Information Asile dont l'affaire a été très importante, l'affaire Mainvielle, dont les jurisprudences déterminent jusqu'à présent le contentieux de l'internement psychiatrique a posteriori, le contentieux de l'annulation et le contentieux de l'indemnisation, un arrêt du tribunal des conflits de 1997. Monsieur Mainvielle, malheureusement, a été réinterné pour des raisons de détresse sociale plus qu'autre chose à fin 2000. Eh bien, à ce jour, il est toujours tenu interné. Et on lui a fait payer un prix d'enfer d'avoir fait procès dans son affaire et d'avoir fait reconnaître son internement de 88 comme étant abusif. On lui a fait payer d'un internement à vie. C'est-à-dire que les risques de représailles qui pesaient sur nous, les militants, étaient énormes. Moi, on m'avait promis, il y a 15 ans, que je risquais que l'administration préfectorale et hospitalière me serre et me fasse prendre perpétuité pour mon militantisme. Vous écoutez, qu'on en passe d'un tel stade au stade actuel, moi, je trouve que c'est franchement pas mal du tout. Donc les perspectives me paraissent ouvertes. Alors cela étant, il n'en reste pas moins que la répression psychiatrique, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Et il n'en reste pas moins qu'avec la médicalisation des gens et des soins, et là-dessus je rejoins tout à fait la contestation des psychiatres initiés par le collectif des 39, etc. Il faut, enfin des psychiatres partisans des thérapies verbales, des thérapies alternatives, il faut continuellement argumenter et monter des circuits contre le tout médicament, contre le camisolage chimique des gens, pour une psychiatrie alternative et pour des prises en charge alternatives. Ça, c'est un combat absolument nécessaire. Mais pour moi, les perspectives me paraissent ouvertes. Alors, je tiens à faire état de deux questions écrites qui ont été posées au gouvernement. Une question écrite du 3 janvier 2011 de Madame Jacqueline Fraisse, probablement impulsé par un cadre de santé d'un établissement psychiatrique au ministre du Travail et de la Santé. cette question a cette particularité de camper la problématique compliquée maintenant de l'information obligatoire et nécessaire des patients sous contrainte sur leurs droits. Alors, cette question dit la chose suivante. Précisément, selon l'article R3211-12 du Code de la santé publique, le patient qui fait l'objet de soins sans consentement en hospitalisation complète doit être informé qu'il peut avoir accès dans l'établissement où il séjourne aux pièces transmises au greffe du juge des libertés de la détention s'il doit être auditionné par ce dernier. De même, le patient appelé à l'audience doit être informé qu'il peut faire parvenir ses observations par écrit au greffe du JLD. Le patient doit également être informé de la possibilité de demander à être auditionné à huis clos pour protéger l'intimité de sa vie privée et le secret médical. Enfin, dans la mesure où il n'y a pas de contrôle systématique du juge sur les programmes de soins, le patient qui en est l'objet doit être informé qu'il peut saisir à son initiative le juge des libertés de la détention à tout moment, afin d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate de la mesure conformément à l'article L3211-12 du CSP. Non seulement il s'agit là d'informations relatives à la procédure, en particulier aux principes contradictoires, pour lesquels le personnel soignant n'est pas du tout formé, mais ni la loi ni le règlement n'indiquent qui est le débiteur de ces informations à délivrer aux patients. Psychiatre, cadre de santé, infirmier, assistante sociale, administrateur, préfet, avocat. Dans la réalité, les soignants sont en grande difficulté face à ces obligations qui, de fait, sont rarement remplies, ce qui est préjudiciable pour les patients. Obligations d'information, je répète, qui sont rarement remplies, ce qui est préjudiciable pour les patients. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir préciser les modalités au ministère, les modalités concrètes de mise en œuvre de cette obligation d'information, et en particulier sur qui elle repose précisément. Et dans cette question écrite, il est fait état d'une évolution de la jurisprudence, sous l'impulsion de nos différents procès, il est vrai, où on a vu une cour administrative d'appel sanctionner une décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique au motif que, préalablement à son transfert, la police n'avait pas informé la personne en cours d'internement provisoire de son droit d'accès à un avocat ou à un médecin de son choix. Mesure donc de transfert annulée. Cela veut dire que pour les programmes de soins, que pour les mesures préalables, la garde à vue sanitaire, il y a deux façons jurisprudentielles, une obligation d'informer sur son droit d'accès à l'avocat, sur son droit d'accès à ses droits fondamentaux, une obligation de délivrer une information à la personne qu'on va retenir, qu'on va mettre en période d'observation, à peine de nullité de la mesure. Et donc là, vous avez les personnels qui s'affolent en disant, en sollicitant leurs députés et en disant, mais comment, qu'on nous éclaircisse, qu'est-ce qu'on doit faire, pour un peu, il faudrait qu'on fasse de l'information juridique. Alors moi, je veux bien, mais c'est pour ça que nous, on entend défendre, à la conférence de presse d'avril, qu'il nous faut, dans les établissements psychiatriques, des permanences d'avocats.
D'accord.
C'est ce qu'on entend. D'autre part, il y a une autre question écrite du 26 janvier de Mme Françoise Ferrat, Marne Union Centriste, au ministre, qui redonne les anciens chiffres de l'hospitalisation sans consentement et qui fait savoir au ministre qu'on a bien eu, à partir de 1992 jusqu'en 2005-2006, une inflation continue, avec hausse continue des hospitalisations sans consentement. Et députée demande au ministre, est-ce que la loi du 5 juillet 2011 va mettre un frein à cette hausse ? Ah, c'est toute la question. Là, franchement, c'est toute la question. Je dis, a priori, d'après l'intervention de la docteure Claire Jéquière à la conférence débat du 4, c'est assez pessimiste, mais cela étant, il y a quand même un frein qui est posé par les contrôles judiciaires. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser.
Oui. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Enfin, il y a énormément de choses à rajouter. Ça ouvre encore à d'autres questions, énormément de questions.
Peut-être rappeler donc que le CRPA organise une conférence de presse.
Début avril, on ne sait pas encore à quelle date. Délibéré du Conseil constitutionnel, qui n'est pas encore fixé. Ce sera récemment aux alentours du 10 avril, à la maison des avocats du barreau de Versailles. À Versailles.
Donc on reprécisera quand on aura un peu plus d'informations.
Merci André.
Et je rappelle le site du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, crpa.asso.fr. Ainsi se termine l'émission L'Entonnoir. À la semaine prochaine.
Les infirmiers, ça Puisqu'on vit